suffrage universel et scrutin de liste régional, avec une représentation proportionnelle et le vote et l'éligibilité des femmes. Programme des faisceaux italiens de combat de mars 1919.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière émission, nous avons voulu présenter le contexte du début des années 20 en Italie. Contexte difficile, fait de crises politiques, économiques et sociales, et qui permet de mieux comprendre l'avènement du fascisme. Aujourd'hui, nous tenons à présenter justement ce fascisme naissant, ainsi que son chef Benito Mussolini. Quelques mots effectivement sur celui qui va, à partir de la fin de 1922, dominer la scène politique italienne pour une vingtaine d'années. Benito Mussolini est né en 1883 à Predappio, dans la province de Forlì, en Émilie-Romagne, pas très loin de Bologne. À 17 ans, il adhère au Parti Socialiste, auquel son père est déjà militant, et il appartient en particulier à l'aile gauche du parti, ce qu'on appelle l'aile maximaliste, par rapport à l'aile minimaliste, qui est l'aile réformiste du Parti Socialiste. Il est à ce moment-là violemment anticlérical, antimilitariste, il est pour la proclamation d'une république en Italie, et d'ailleurs, il fuit l'Italie pour ne pas avoir à effectuer son service militaire. Il bénéficie, en 1904, d'une amnistie royale à l'occasion de la naissance du prince du Piémont, l'héritier du trône. En 1912, il arrive à un poste de responsabilité au sein du Parti Socialiste Italien, puisqu'il est, à la suite du congrès de Reggio Emilia, le directeur du journal du parti Avanti. Il est sur des positions toujours aussi maximalistes, et à vrai dire, au moment où la crise européenne a lieu à l'été 1914, il est plutôt sur des positions neutralistes. Or, le 18 octobre 1914, il publie un éditorial dans le journal socialiste Avanti, où il défend l'intervention de l'Italie dans le conflit mondial. Évidemment, cette prise de position choque ses camarades de parti. Il perd son poste de directeur du journal et le 23 novembre 1914, il est exclu du parti et il va fonder un autre journal qui va finalement lui survivre jusqu'à la fin du régime fasciste, Il Popolo d'Italia. Alors, cette volte-face, puisqu'il s'agit bien d'une volte-face, mérite qu'on s'y arrête un instant. Pourquoi Mussolini a changé brutalement de position? Bien sûr, ses adversaires ont souligné qu'il avait reçu de l'argent de l'ambassadeur de France, et il est vrai que la France, au moins à deux reprises, lui a donné de l'argent qui d'ailleurs lui a été utile pour fonder Il Popolo d'Italia. Mais ce serait trop simple d'expliquer cette volte-face uniquement par la volonté de s'enrichir ou de récupérer de l'argent français. À vrai dire, Mussolini se sent à l'étroit dans le Parti Socialiste. Il a compris qu'il ne pourrait guère aller plus haut. Or, c'est un homme qui a une grande idée de lui-même et qui a des ambitions personnelles indéniables. D'autre part, il est peu sensible au marxisme. C'est quelqu'un qui a lu peu Marx. Et donc, la lutte des classes n'est pas quelque chose qui, finalement, au fond de lui-même, l'a beaucoup touché. Par contre, il a beaucoup lu Georges Sorel, un idéologue français qui défendait le rôle de la violence comme moteur de l'histoire. Et il estime que, en 1914, le Parti Socialiste a sans doute minimisé la question nationale. Or, il y a bien un heurt des nationalités, une guerre de nationalités en 1914. Et pour avoir trop oublié ce concept des nations, le Parti Socialiste, aux yeux de Mussolini, eh bien, se serait éloigné du peuple italien. Ainsi, c'est au nom, finalement, d'une vision révolutionnaire à la fois de la violence et de la nation qu'il rompt les ponts avec le Parti Socialiste et il va d'ailleurs s'engager dans l'armée italienne pour eh bien, participer à une guerre qu'il appelait finalement de ses voeux. À la fin de celle-ci, c'est un homme finalement assez isolé. parce qu'il est évidemment rejeté complètement par la gauche italienne et regardé avec méfiance par une bonne partie des élites libérales qui gouvernent l'Italie. Aussi décide-t-il, le 23 mars 1919, de fonder les faisceaux italiens de combat. Ces faisceaux italiens de combat, c'est le premier fascisme. C'est un agrégat très composite d'anciens socialistes qui ont suivi Mussolini dans son aventure, d'anarcho-syndicalistes, d'anciens combattants désœuvrés et de nationalistes qui rejettent complètement les idéaux libéraux de l'Italie de ce temps et qui rejettent encore plus les traités de paix que le gouvernement italien a acceptés en 1919. Quand on regarde d'ailleurs le programme des faisceaux, on ne manque pas d'être surpris. C'est un programme que l'on peut placer à l'extrême gauche du paysage politique italien. Proclamation de la République, suffrage universel pour les hommes et pour les femmes, abolition du Sénat, abolition de la conscription et des armées permanentes, également confiscation de tout ce qui peut ressembler à des profits de guerre. Vous avez affaire à une idéologie qui est finalement assez proche d'une extrême gauche. S'y ajoute néanmoins une violence, car la violence va être un élément fondateur du fascisme. Seulement, ce premier programme des faisceaux de combat est un désastre électoral. En effet, au cours des élections du 16 novembre 1919, aucun élu des faisceaux de combat est envoyé à la Chambre des députés. Mussolini lui-même n'obtient que 6000 voix à Milan. Or, dans le même temps, la liste socialiste obtient 160 000 voix et la liste démocrate chrétienne 100 000. Pour beaucoup, Mussolini est finalement hors jeu et définitivement hors du paysage politique italien. Or, en fait, l'homme va savoir modifier ses positions et s'adapter. À partir du début de 1920, il va abandonner les réclamations de son programme de 1919 et il va adopter une position finalement très anti-bolchévique et également une position de retour à l'ordre. Il va se présenter comme un rempart face à la menace bolchévique. Face à cette menace, ou supposait-elle, eh bien la violence va jouer un rôle considérable. En effet, le fascisme participe à la création d'un climat de guerre civile qui traverse toute la péninsule. Un chiffre le montre. Du 1er janvier au 31 mai 1921, 72 socialistes et 45 fascistes sont tués. Il s'agit bien effectivement d'une guerre civile de moins en moins larvée et de plus en plus présente dans les rues italiennes. Qui plus est, le fascisme, qui commence à apparaître aux yeux d'une partie de la société italienne comme un rempart contre le danger rouge, voit ses adhérents augmenter. À la fin de 1920, il y a à peu près 20 000 adhérents au faisceau de combat. En mai 1922, après la création du parti, on est à 320 000 adhérents, c'est-à-dire que désormais, le fascisme est devenu un parti de masse. Indéniablement, dès lors, structurer le fascisme. En novembre 1921, un congrès réuni à Rome crée le Parti National Fasciste, il Partito Nazionale Fascista. Quand on regarde le programme de celui-ci, il y a indéniablement des changements par rapport au programme des faisceaux de combat de 1919. Il ne s'agit plus du tout de changer les institutions. Il s'agit également de provoquer un retour à l'ordre, par exemple en interdisant dans les services publics tout droit de grève. Et puis, il y a également la question de la discipline à imposer aux partis, car il faut bien voir que Mussolini, encore en 21-22, n'est pas le chef totalement absolu du parti fasciste. Il doit compter avec les chefs provinciaux du parti, ce qu'on appelle les RAS, d'un nom qui désigne en Éthiopie les chefs de guerre. C'est vrai par exemple pour Italo Balbo, qui a un fief fasciste à Ferrare, Roberto Farinacci à Cremone, ou Dino Grandi à Bologne. Ainsi, le parti, constitué lors du congrès de Rome, vise à structurer au maximum quelque chose qui ne l'était pas jusque-là. Une autre remarque s'impose aussi, c'est que les autorités gouvernementales ne font pas preuve de beaucoup de fermeté vis-à-vis des actions fascistes. Hormis le cas qui est devenu célèbre de Sarzana, petite ville de Toscane, où en juillet 1921, des carabiniers ont tiré sur des militants fascistes qui voulaient forcer des barrages, le fascisme est finalement quelque chose d'admis par les autorités qui voient en lui, au plus, quelque chose qui va vraiment rétablir l'ordre, au moins un élément politique qui permettra de lutter contre l'influence socialiste et bolchévique, puisque le Parti communiste a été créé au début de 1921. On a même l'idée qu'en mai 1921, on intègre dans des listes gouvernementales, dans ce qu'on appelle le bloc national, des candidats fascistes, ce qui permet à Mussolini et à 35 à 34 de ses compagnons d'être élus au Parlement en ce printemps 1921. Indéniablement, de plus en plus, l'État libéral fait preuve de faiblesse vis-à-vis d'une force politique montante. Il ne reste plus qu'une dernière étape à franchir, la prise du pouvoir.